Chapitre 3. Malibu. Une odeur imprégnait la maison depuis toujours. Elle émanait du temps, de l'air salé et de la nature anthropique des demeures onéreuses construites trop près de la mer. Elle était peut-être aussi propre aux endroits souvent inhabités, des villas ouvertes et fermées au rythme des allées et venues de résidents qui ne tenaient pas en place. Angie imagina les pièces vides, des taches de corrosion fleurissant en silence sur le métal, de la moisissure pâle imprégnant des recoins obscurs. Les architectes, comme s'ils connaissaient ces processus éternels, avaient abandonné quelques éléments à la rouille. Dévorés par des années d'embrun, les immenses balustrades d'acier de la terrasse en bois n'étaient désormais pas plus épaisses que le poignet. Le bâtiment, comme ses voisins, était posé sur des morceaux de fondation abîmés, et lorsqu'elle se promenait sur la plage, elle se prenait parfois à rêver d'archéologie. Elle essayait d'imaginer le passé de l'endroit, d'autres maisons, d'autres voies. Lors de ses balades, un drone armé l'accompagnait. Minuscule hélicoptère d'ornier, qui s'élevait de sa base cachée sur le toit dès qu'elle descendait de la terrasse. Programmé pour qu'elle ne le remarque jamais, il se déplaçait dans un silence presque complet. Sa façon de la suivre dégageait une certaine mélancolie, comme un cadeau de Noël très cher, mais qui n'avait pas plu. Elle savait qu'Hilton Swift l'observait grâce aux caméras du dornier. Rien ou presque de ce qu'il se passait dans la maison de la plage n'échappait à SenseNet. Sa solitude, la semaine isolée qu'elle avait exigée, se déroulait sous surveillance constante. Ses années de métier lui avaient conféré une singulière immunité au regard des autres. Parfois, le soir, elle allumait les projecteurs installés sous le plancher de bois extérieur et illuminait les hiéroglyphes dessinés par les immenses crap taupes gris. Elle laissait la terrasse et le salon derrière elle, dans l'obscurité. Elle s'asseyait sur un siège de plastique blanc et regardait la danse brownienne des crabes. Sous la lueur des lampes, il projetait de minuscules ombres à peine visibles, cornes fugaces sur le sable. Le bruit de la mer venait la bercer. Tard le soir, lorsqu'elle dormait dans la plus petite des deux chambres d'amis, il s'insinuait dans ses rêves, mais jamais dans les souvenirs de l'étranger qui surgissaient parfois. Elle choisissait les chambres à l'instinct. La plus grande pouvait réactiver de vieilles douleurs. Les médecins de la clinique s'étaient servis de tenailles chimiques pour extirper l'addiction des récepteurs de son cerveau. Elle préparait à manger dans la cuisine blanche, décongelait du pain dans le micro-ondes, jetait des amas de soupe suisse déshydratée dans des casseroles en acier immaculé, s'intégrait avec ennui dans l'espace anonyme, mais de plus en plus familier, dont elle avait été isolée avec subtilité par la poudre de synthèse. « C'est ça, la vie », dit-elle au plan de travail blanc. « Qu'en penseraient les psys employés par SenseNet ?» se demanda-t-elle, si un micro caché leur relayait ses propos. Elle remua la soupe avec un mince fouet en inox et regarda la vapeur s'élever. « Toujours rester active », songea-t-elle. « Faire les choses soi-même. » À la clinique, il l'obligeait à faire son lit. Elle prit une cuillère de son bol de soupe et se renfrogna en repensant à la clinique. Elle l'avait quitté après une semaine de traitement, contre l'avis des médecins. La désintoxication s'était déroulée à merveille, lui avait-il dit, mais la thérapie n'avait pas commencé. Il lui avait asséné le taux de rechute parmi les clients qui n'achevaient pas le programme. Ils avaient expliqué que son assurance ne prendrait rien en charge si elle abandonnait. SenseNet paierait, leur avait-elle déclaré, sauf s'il préférait qu'elle règle elle-même. Elle avait sorti sa puce Platinum de la Mitsubank. Son lire était arrivé une heure plus tard. Elle lui avait demandé qu'il l'emmène à l'Axe, avait commandé une voiture qui devait la retrouver là-bas et avait annulé tous ses appels entrants. « Je suis désolée, Angela », avait annoncé l'avion à réaction en virant au-dessus de Montego Bay quelques secondes après le décollage. « Mais Hilton Swift peut prendre les commandes et il veut vous parler. »« Angie ?» dit Swift. Tu sais que je te soutiens à fond, tu le sais, Angie. » Elle se tourna pour regarder l'ovale noir du haut-parleur. L'enceinte se situait au centre du plastique gris et lisse, et elle l'imagina tapis derrière, ses longues jambes de sportif pliées tant bien que mal, de façon grotesque, par-delà la cloison du lyre. « Je le sais, Hilton. C'est gentil de m'appeler. »«
Tu pars à L.A., Angie ?»«
Oui. C'est ce que j'ai demandé à l'avion. »«
À Malibu. »«
C'est ça. »
Piper Hill est en route pour l'aéroport.
Merci, Hilton, mais je ne veux pas retrouver Piper, ni personne. Je veux une voiture.
Il n'y a personne dans la maison, Angie.
Bien, c'est ce que je veux, Hilton. Personne dans la maison, qu'elle soit vide.
Tu es sûr que c'est une bonne idée?
C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis bien longtemps, Hilton.
Une pause. Ils disent que tout s'est bien passé, Angie, au niveau du traitement. Mais ils voulaient que tu restes.
J'ai besoin d'une semaine, 7 jours, seule. Après sa 3e nuit dans la maison, elle se réveilla à l'aube, se prépara du café, s'habilla. Des gouttes de condensation mouchetaient la vitre de la véranda. Elle n'avait que dormi, rien d'autre. Si elle avait rêvé, elle ne s'en souvenait pas. Mais il y avait quelque chose, une accélération, presque un étourdissement. Elle se tenait debout dans la cuisine et sentait le sol en céramique froid à travers ses épaisses chaussettes de sport blanches, les deux mains autour de la tasse chaude. Quelque chose, par là. Elle tendit les bras, leva le café comme un calice, un geste à la fois instinctif et ironique. Cela faisait 3 ans que les Loas ne l'avaient pas chevauché, 3 ans qu'ils ne l'avaient plus du tout touché. Mais maintenant, Legba, un des autres, la sensation d'une présence s'évanouit brusquement. Elle reposa la tasse sur le plan de travail trop vite et le café déborda sur sa main. Elle courut chercher des chaussures et un manteau, des bottes en caoutchouc verte dans le placard de plage et un épais coupe-vent bleu dont elle ne se souvenait pas. Trop grand pour avoir appartenu à Bobby. Elle se précipita à l'extérieur, descendit les escaliers sans faire attention au bourdonnement du drone d'ornier qui décollait derrière elle comme une libellule patiente. Elle jeta un coup d'œil vers le nord, vers les villas de plage entassées, le désordre de toit lui rappelant un barrio de Rio. Puis, elle se tourna vers le sud et la colonie. Celle qui vint s'appelait Maman Brigitte ou Grande Brigitte. Et si certains la considèrent comme la femme de Baron Samedi, pour d'autres, elle est la plus ancienne des morts. L'architecture onirique de la colonie s'élevait à la gauche d'Engie, profusion de formes et d'ego. Des répliques des Watchtowers parsemées de néons et d'allures fragiles jouxtaient des bunkers néo-brutalistes aux bas-reliefs de bronze. Sur son passage, des murs de miroirs reflétait les bancs de nuages matinaux du Pacifique. Au cours des 3 années écoulées, elle avait parfois eu l'impression d'être sur le point de traverser ou de retraverser une démarcation, une subtile frontière de croyances pour découvrir que sa période avec les Loas n'avait été qu'un rêve ou qu'il ne s'agissait en réalité que des stigmates d'une contagion culturelle consécutive aux semaines passées au sein de l'UFO de Beauvoir, dans le New Jersey, qu'elle allait adopter un autre point de vue où il n'y avait ni Dieu ni cavalier. Elle continua à marcher, réconfortée par le ressac, par le simple mouvement perpétuel de la plage, sa présence, son éternité. Son père était mort depuis 7 ans, et les informations qu'il avait conservées sur sa propre vie ne lui avaient pas beaucoup appris. Il travaillait pour quelqu'un ou quelque chose. Il avait obtenu le savoir en récompense et il s'était sacrifié pour elle. Parfois, elle avait l'impression d'avoir vécu 3 existences, chacune isolée des autres par quelque chose dont elle ignorait le nom, sans espoir de jamais les rassembler. Il y avait les souvenirs d'enfance de l'archéologie de Maas creusés au sommet d'une mesa d'Arizona où elle se collait à une balustrade de grès, le visage au vent, et avait l'impression que tout le plateau en dessous était son vaisseau. Qu'elle pouvait l'emmener vers ses couleurs crépusculaires au-delà des montagnes. Plus tard, Elle s'en était enfuie par le ciel, la peur matérialisée dans sa gorge. Elle ne se rappelait plus la dernière fois où elle avait vu le visage de son père, même si cela devait être sur la terrasse des ultralégers. Les autres avions attachés pour résister aux rafales, rangées de papillons arc-en-ciel. Sa première vie s'était achevée ce soir-là. L'existence de son père aussi. Sa deuxième vie avait été courte, rapide et très étrange. Un homme nommé Turner l'avait fait sortir d'Arizona et l'avait laissé avec Bobby Beauvoir et les autres. Elle ne se souvenait pas bien de Turner, seulement qu'il était grand, musclé et avait un regard inquiet. Il l'avait emmenée à New York. Puis Beauvoir l'avait conduite avec Bobby dans le New Jersey. Là, au 52e étage d'une structure à revenus de base, Beauvoir lui avait expliqué pour ses rêves. Ils étaient réels, avait-il dit, son visage brun, brillant de sueur. Il lui avait appris les noms de ceux qu'elle avait vus en songe. Il lui avait confié que tous les rêves puisaient à une mère commune et lui avait montré en quoi les siens étaient différents tout en restant les mêmes. « Tu es la seule à voguer sur l'ancienne mer et la nouvelle », avait-il dit. Les dieux l'avaient chevauchée dans le New Jersey. Elle avait appris à s'abandonner aux cavaliers. Elle avait vu le Loa Linglesou entrer en Beauvoir, dans l'UFO, vu ses pieds disperser les diagrammes dessinés dans la farine blanche. Elle avait découvert les dieux dans le New Jersey et l'amour. Les Loas l'avaient guidée lorsqu'elle avait entrepris avec Bobby de construire sa vie actuelle, la troisième. Ils allaient bien ensemble, Angie et Bobby, nés du vide. Angie, du royaume propre et nu de Maas Biolab, et Bobby, de l'ennui de Barrytown. Grande Brigitte l'atteignit sans prévenir. Elle trébucha, tomba presque à genoux dans les vagues, tandis que le paysage crépusculaire qui s'ouvrait devant elle aspirait le bruit de la mer. Les murs blanchis du cimetière, les pierres tombales, les saules, les bougies. Sous le plus vieil arbre, une multitude de chandelles, les racines tordues recouvertes de scie. « Je me présente, mon enfant. » Et Angie la sentit tout à coup et comprit ce qu'elle était, maman Brigitte, mademoiselle Brigitte, la plus âgée des morts. « Je n'ai pas de culte, mon enfant, pas d'hôtel spécial. » Elle s'aperçut qu'elle avançait vers la lueur des bougies, un bourdonnement dans les oreilles comme si le saule cachait un immense essaim d'abeilles. « Mon sang n'est que vengeance. » Angie repensa aux Bermudes, la nuit, un ouragan. Bobby et elle étaient sortis pour aller dans l'œil du cyclone. Grande Brigitte était comme ça. Le silence, l'impression de pression, de force inconcevable retenue momentanément. Il n'y avait rien à voir sous le saule, rien que les bougies. Les Loas, je ne peux pas les appeler. J'ai senti quelque chose. Je suis venu voir.
Tu es convoqué jusqu'à mon reposoir. Écoute-moi. Ton père a dessiné des VV dans ta tête. Il les a dessinés dans une chair qui n'était pas chair. Tu as été consacré à Ezili Freda. Legba t'a conduite dans le monde pour que tu serves ses propres objectifs.
Mais on t'a envoyé du poison, mon enfant. Un coup poudre. Son nez se mit à saigner. Du poison? Les VV de ton père sont modifiés, en partie effacés, redessinés. Même si tu as cessé de t'empoisonner, les cavaliers ne peuvent toujours pas t'atteindre. Je suis d'une autre sorte. Elle ressentit une affreuse douleur dans la tête, le sang battant dans ses tempes.
« Je vous en prie !»«
Écoute-moi. Tu as des ennemis. Ils complotent contre toi. L'enjeu est immense. Crains le poison, mon enfant !» Elle baissa les yeux sur ses mains. Le sang était réel, d'une couleur vive. Le bourdonnement s'intensifia. Il était peut-être dans sa tête.
« Je vous en prie !» Aidez-moi, expliquez.
Tu ne peux pas rester ici. C'est la mort. et Angie tomba à genoux dans le sable, le bruit des vagues qui déferlaient autour d'elle, éblouie par le soleil. Le dornier planait avec agitation 2 mètres devant elle. La douleur cessa aussitôt. Elle essuya ses mains ensanglantées sur les manches de la veste bleue. Le drone couvert de caméras vrombit et pivota.
« Ça va !» parvint-elle à dire. « J'ai saigné du nez, c'est tout !»
Le dornier s'élança vers l'avant puis l'arrière. « Je vais retourner à la maison, tout va bien !» L'appareil s'éleva dans le ciel. Angie se recroquevilla sur elle-même, tremblante. « Non, il ne faut pas qu'ils voient ça. Ils comprendront qu'il s'est passé quelque chose, mais pas quoi. » Elle s'obligea à se relever, se retourna et retraversa la plage par où elle était arrivée. En marchant, elle fouilla les poches de sa veste à la recherche d'un mouchoir, de quelque chose, n'importe quoi, pour essuyer le sang sur son visage. Lorsque ses doigts trouvèrent les coins du petit paquet plat, elle le reconnut aussitôt. Elle s'arrêta et frissonna. La drogue, c'était impossible et pourtant... Mais qui ? Elle se retourna et regarda le dornier disparaître. Le paquet ? Assez pour un mois. Coup, poudre. Crains le poison, mon enfant.